Mais comme il y avait quelqu'un qui faisait déjà la lecture, c'était qui, quand la messe a commencé et qu'il y a quelqu'un qui lit, si le prêtre se lève, tout s'arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une bêtise, c'est pas la bonne lecture. Ça met un stress. Voilà, bon, allez, on va travailler. Peut-être que je branche le... Et on a à faire aujourd'hui le résumé de, du cours de la dernière fois, du parcours de la dernière fois, où je vous ai laissé un petit peu comme ça. Et puis, donc bien reprendre ça ensemble, où là, c'est la colonne vertébrale. Hein. Donc là, il faut vraiment qu'on soit tous raccord, on prendra le temps qu'il faut. Parce que je préfère que ce que nous aurons fait, nous l'ayons bien fait, plutôt que nous bouclions, c'est français ça ?
Oui.
Le programme, mais que vous soyez largués.
Ça, c'est sûr.
Voilà, donc on s'en fiche d'aller au bout. Parce que vous vous rendez bien compte qu'il s'agit plus d'entrer dans une démarche que d'emmagasiner des infos. Donc c'est pas grave si on va pas au bout du programme. En revanche, ce qu'on fait, ce qu'on aura fait et qui est de l'ordre du squelette, je veux qu'on soit vraiment raccord. Est-ce qu'il est résumé? Voilà. Donc voilà le résumé. Une fois que j'aurai fait le... Oula, on voit rien.
Est-ce que vous pouvez augmenter un petit peu sur votre ordinateur? Ah oui, plein écran, bonne idée.
Non, puis même d'augmenter la petite barre, vous voyez le curseur en bas à droite.
C'est une très bonne idée. Voilà. Très bonne idée, on va augmenter le curseur.
Ah ouais.
C'est mieux ? Voilà. Alors ne lisez pas tout de suite. Ce qu'on a à faire, c'est voir ensemble le résumé. Ensuite, je vous ai promis deux petits prolongements du cours. C'est hors résumé parce que c'est des prolongements. C'est plus sur le squelette. Et ensuite, on commence le cours suivant. Enfin, le cours 3. Ça vous va ? Le résumé. Alors là, vous avez pleine possibilité de m'interrompre, d'intervenir, de... La révélation chrétienne est de nature relationnelle et pas seulement de nature informative. Ça, c'est ce qu'on a vu. C'est l'un des résultats du cours 1. Tout le monde est à l'aise avec ça ?
Oui, ça va.
Bien. Elle requiert, elle, c'est la révélation chrétienne. De notre part, une réception active.
Relation.
Une réception active. Comme dans une relation, tout à fait. Voilà. Tout ce que je vais mettre ici, c'est ce qui se passe dans la relation. Une réception active, une adaptation, une compréhension. C'est ce qui se passe dans toute relation. Bonjour, asseyez-vous, alors présentez-vous, qui êtes-vous ? On s'adapte, on essaie de comprendre, et on est dans une réception active. Tout ça, ça demande, c'est actif tout ça, s'adapter, comprendre. C'est pas simplement... Contrairement à ce que dit Descartes, connaître, c'est pas simplement l'impression sur un morceau de cire. Hein. C'est pas seulement ça, connaître. C'est pas simplement quelque chose qui vient déposer une empreinte sur un morceau de cire. Connaître, ça demande une anticipation, une projection vers, un accueil, une adaptation, un décodage des attitudes. Vous allez l'avoir sur le site. Hein.
Alors,
donc elle requiert. Donc tout le monde est OK avec la deuxième phrase ?
Oui.
Donc ça vient du cours 1. Là, ça y est, on est dans le cours 2. Donc, la, le Coran, c'était la révélation. Qu'est-ce à dire ? Le cours 2, c'est la révélation. Que sait-on ? Alors déjà, pour répondre à la question que sait-on, il y a déjà... quelle est la posture de notre côté ? Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est un quelqu'un d'abord, une relation d'abord, et donc ça suppose cela. Cette réception active, cette adaptation, cette compréhension. Irénée de Lyon nous a donné des formulations éclairantes concernant cette accommodation du regard à la révélation. Donc comme vous réglez votre regard, vous l'accommodez, là j'accommode la lentille, hein, voilà. De la même manière, votre œil s'accommode à l'objet que vous voulez examiner, de la même manière, notre regard spirituel, intellectuel, notre cœur, notre être, notre personne s'adapte à la révélation. Ok ? Donc il y a une accommodation du regard. Et il nous a donné, Irénée, des formulations éclairantes pour mieux comprendre cela. Par exemple, discrétion, au sens de juste mesure. Donc on ne demande pas à la révélation ce qu'elle ne dit pas. Il donne un exemple, Irénée. Vous vous rappelez ? Est-ce que j'ai commencé l'enregistrement ? Oui. Il donne un exemple, Irénée. Qu'est-ce qu'il donne comme exemple de questions qu'on ne peut pas poser parce que la révélation n'en parle pas ? Et donc, ben, si je puis dire, tant pis pour nous.
Est-ce qu'il y avait quelque chose avant la création ?
Alors, c'est, l'idée, c'est ça, mais ce n'est pas tout à fait ça la question.
Qu'est-ce qu'il faisait ?
Voilà. Qu'est-ce que Dieu faisait avant la création du monde ? Il dit, mais ça, voilà, ça, c'est un manque de discrétion. Ce n'est pas mesuré. Ce n'est pas mesurer la révélation. C'est indiscret. Un peu, alors c'est vraiment une comparaison très branlante, hein. Un peu comme si, rencontrant une personne pour la première fois, vous lui disiez, asseyez-vous, combien gagnez-vous ? En France, ça passe très mal. Dans certains pays, ça passe mieux. Mais en France, ça passe très mal. Ce n'est pas adapté à l'état présent de cette relation-là. Ce n'est pas par là qu'on commence. Bon, la comparaison est branlante, parce que là, il ne s'agit pas de psychologie ou de diplomatie. Est-ce que ça va ? Donc, discrétion. Il nous a donné plusieurs expressions. Vous avez vu, j'ai mis un pluriel, des formulations éclairantes. Alors, discrétion, ou bien règle de la foi, au sens de l'instrument pour construire et non le gabarit. Vous vous rappelez ? La règle de la foi, ce n'est pas ce qui doit rentrer à toute force dans le cadre, mais c'est l'outil pour construire. C'est la règle du menuisier, le maître de l'arpenteur. C'est un outil pour continuer, pour prolonger. Vous vous rappelez de ça ?
Oui, oui, oui.
Alors ça continue de nous dire que sait-on. Vous voyez ? Que sait-on ? On sait un quelqu'un. On sait la manière de le rencontrer. On sait, il y a un savoir-faire pour prolonger. C'est ce registre de savoir-là qui est mobilisé. Alors un théologien contemporain qu'on a déjà croisé, comme Christophe Théobald, il va carrément parler de style. On apprend un style. Ok ? On continue. Qu'est-ce qu'il nous dit encore, Irénée ? Il nous parle de la succession épiscopale. Alors lui, il va dire apostolique, parce qu'il est au IIe siècle. Donc là, j'ai mis en français d'aujourd'hui. Donc lui, il ne dit pas épiscopale, hein. Il dit apostolique, mais c'est ça que ça veut dire. Donc il parle de la succession épiscopale, moins comme hiérarchie que comme garantie d'un contact avec la source. Qu'est-ce qui l'intéresse dans la succession épiscopale ? Ce n'est pas le fait que ce soit des chefs d'abord. C'est quoi ? La source et voilà, pourquoi ça ? Le contact comment ? Oui, mais il y a un truc qui symbolise très très fort. L'imposition des mains, qui remonte jusqu'à Jésus. Voilà. Quand il pense succession épiscopale, il pense aussi ça de manière très concrète. C'est la garantie, pas d'abord parce qu'ils ont du galon, mais parce que ici on a la trace d'un geste qui remonte jusqu'à Jésus lui-même.
C'est
contact. Voilà. Contact. Ça va ?
comme un instrument.
Donc qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'on est au contact d'eux. La révélation, que sait-on ? On sait qu'on est au contact d'eux. Alors, au contact de qui ? Du Christ, hein ? Alors, c'est très cohérent avec le cours 1, puisqu'on vous dit la révélation, qu'est-ce à dire ? Une relation avec une personne, que sait-on ? Qu'on est au contact de cette personne.
C'est pareil, en fait. Relation,
oui. C'est pareil. Retourne... Oui, tout à fait. Sauf qu'on déplace en même temps le référentiel. C'est-à-dire qu'ici, on est beaucoup plus impliqués, nous. On continue. Surtout, Irénée est... Alors, ici, vous avez bien compris que source, c'est le Christ. Hein. Là. Quand je dis d'un contact avec la source, c'est le Christ, c'est l'imposition des mains. Alors, pas seulement, c'est son enseignement. Hein. Mais, il y a quelque chose de très incarné dans le fait que l'adhésion à cet enseignement soit aussi le contact avec un objet qui nous constitue membre, qui nous qualifie, qui nous constitue... Le fait d'être au contact avec cette révélation, ça change notre statut. Ça nous fait membre de cette aventure. Surtout, Irénée est attentif à l'acte de réception active, à l'opposé pardon, des démarches qui ne lisent plus le texte selon son intention propre, comme par exemple les lectures exclusivement symbolistes. Est-ce que vous comprenez là ? Alors, un exemple de lecture exclusivement symboliste qu'on a vu. Les affreux... Les gnostiques. Alors, qu'est-ce que c'est une lecture symboliste, exclusivement symboliste des gnostiques, par exemple ? Qui est une caricature, Irénée. Ça touche beaucoup à caricaturer ça.
Les chiffres.
Les chiffres, voilà. Donc, c'est uniquement symboliste.
Ah,
qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien alors... Ah, excusez-moi. Donc, une lecture exclusivement symboliste, c'est je ne lis plus le texte selon son intention propre, mais je l'instrumentalise en projetant sur lui des symboles qui viennent de l'extérieur.
Ce que je veux lui faire dire.
Pardon ?
Ce
que je veux lui faire dire.
Exemple, vous avez dit les chiffres.
Bah, les chiffres avec les gnostiques. Par exemple, donc ils vont chercher partout des tétrades, des ogdoades, des dodécades, et Irénée se moque d'eux avec la pentade, c'est-à-dire le chiffre 5, parce que eux, le 5, ça ne leur parle pas. Et donc il dit, voyez, on prend n'importe quel chiffre, ça marche. Vous vous rappelez de ça ? Donc ça, c'est une lecture qui ne lit pas le texte dans son intention. Quand je lis, au commencement était le verbe, et le verbe était la vie, et la vie était la lumière des hommes, etc. L'intention du texte n'est pas d'énumérer une tétrade à partir de mots-clés qui seraient commencement, verbe, lumière et vie. Ce n'est pas l'intention du texte. L'intention du texte, c'est de nous parler de la venue de Jésus. Vous voyez ? Bon. Vous vous rappelez l'exemple qu'on avait donné là avec le mathématicien américain ? qui était franchement malade, et qui le savait, c'est une très belle histoire, hein, parce qu'il a appris à vivre avec sa maladie toute sa vie, et il a eu une belle vie.
Il était mathématicien.
Difficile, oui. Puis il a eu un prix Nobel. Hein. Alors pas comme mathématicien, parce qu'il était et mathématicien et économiste, et il a eu un prix Nobel d'économie. Donc c'est... Et puis il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu une belle vie. Une vie difficile, mais une vie. Et donc, mais en luttant contre une pathologie lourde, hein, qui était diagnostiquée, il était traité pour ça. Donc, il voyait des messages où il n'y en avait pas. Vous vous rappelez qu'il lisait, il croyait décoder des messages des Russes du bloc de l'Est dans les pubs de lessive. Donc, c'est ça une lecture exclusivement symboliste qui ne lit plus le texte au centre. L'intention de la pub de lessive, c'est de vous vendre la lessive. C'est pas d'activer des cellules d'espions du KGB, des cellules dormantes d'espions du KGB. Voyez ? Bien. Donc, pour Irénée et pour nous, il s'agit d'entendre ce que dit le texte. Mais il le faut d'une manière active, c'est-à-dire qu'on le fait en mobilisant une expérience, une intuition chez nous, une affinité, une familiarité avec ce dont il s'agit. C'est bien une réception active. Alors, je vous donne des exemples. Quand vous lisez, quand nous lisons Jésus qui dit « Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la, il vaut mieux entrer manchot dans le royaume de Dieu plutôt que d'être jeté dans la géhenne avec tes deux bras. Si ton œil t'entraîne au péché, personne parmi nous n'aurait l'idée de se couper la main ou de s'arracher l'œil. » Je pars évidemment du principe qu'aucun de nous ici n'a jamais péché avec ses mains et avec ses yeux. Oui. Donc nous avons l'habitude de nous recevons le texte dans son intention, dans ce qu'il dit, mais en interprétant à partir d'une affinité. On connaît Jésus et on sait que évidemment il ne souhaite pas que nous soyons un peuple de disciples amputés et borgnes. Et nous faisons ça beaucoup. Nous interprétons le texte à partir de cette expérience à la fois singulière et collective de qui il est. N'est-ce pas ? Est-ce que ça va ?
Oui, oui.
Un autre exemple. Alors ça, c'est un exemple que je dois à un auteur beaucoup plus récent, c'est Blondel. Vous avez entendu parler de Blondel ? Non ? Oui ? Bon, c'est le début du 20e. C'est un immense philosophe français qui a une œuvre pas très étendue en nombre de pages, mais considérable dans son impact. Et en particulier, c'est l'un des fondateurs de la théologie contemporaine, hein, Blondel, Maurice Blondel. Et Blondel, par exemple, dit, mais l'historien qui est très froid, qui est très distant avec le texte, qui n'a aucune recherche d'affinité avec celui dont il s'agit, et pas ceux dont il s'agit. C'est d'abord relationnel avant que d'être informatif. Tout le monde me suit ? Bon. Ben, l'historien en question, il ne va pas bien comprendre pourquoi, quand Jésus dit, au moment de l'institution de l'Eucharistie, au moment de la dernière scène, « Faites cela en mémoire de moi », il va bien comprendre pourquoi ça devient un sacrement, alors que quand Jésus lave les pieds et il dit « Je vous ai montré un exemple », ça ne devient pas un sacrement. Il dit « L'historien n'a aucun moyen d'arbitrer, c'est dans la réception que cela se joue. » Et cette réception, elle est en dehors du texte, et elle se joue à partir de cette affinité avec celui dont il s'agit. Ça va ?
Si je peux me permettre.
Oui.
Cette réception, je comprends tout à fait votre. Ce qui me gêne, c'est que chacun a sa réception. Et il y a un moment donné où il faut qu'on soit tous d'accord dans l'Église sur la réception de
l'arbitrage.
Voilà.
Ah oui.
Je sais pas, des fois, moi, il y a des évangiles qui me surprennent un peu, type arrache-toi l'œil, écoute-toi la main. Et le prêtre le commente dans son homélie, et après je me dis, bon, ça va. Mais en même temps, est-ce que le prêtre, qu'est-ce qui lui permet d'avoir une réception plus légitime que la mienne ? C'est un peu provocant ce que je dis.
Non, c'est une très bonne question. Alors, ce que vous dites est vrai, et en même temps, il y a une question de juste mesure, de discrétion, comme dirait Irénée. Je vous ai parlé de ce catéchumène un jour qui m'a demandé l'obélie. Je n'ai pas raconté ça ?
Non.
Si.
Non,
je radote, je sais que je radote.
Développez.
Bon, si vous percutez que je vous l'ai déjà dit, vous m'arrêtez là. Un jour, donc un catéchumène de la paroisse était là, et c'est un catéchumène, il en était à la troisième année, et on était à quelques encablures de son baptême. Hein.
Donc c'était vraiment... Oui.
Je
ne
me souviens plus de la femme,
mais c'est ça. Vous avez
raconté.
Peut-être pas dans le même contexte, en fait.
Alors, il y a plusieurs histoires de catéchumène. Je continue, il m'a arrêté. Donc, il était là, et il vient voir à la fin, il dit, est-ce que je peux avoir ton homélie ? Et je dis oui, bien sûr, je vais te chercher le papier. Il dit non, mais attends, ne te dérange pas, je suis stupide, j'ai calé sur internet.
Je vais raconter ça?
Non.
Alors je dis, pourquoi tu me dis que t'as qu'à aller sur Internet? Elle n'est pas sur Internet. Il me dit, mais si, elle est sur Internet forcément. Je dis, mais non, pourquoi tu dis forcément? Elle ne me dit pas sur Internet. Il me dit, mais si je vais sur le site du Vatican, je ne trouve pas. Je n'ai pas raconté ça,
non.
Je dis, mais pourquoi tu veux qu'elle soit sur le site du Vatican? Et là, il me regarde, il me dit, mais parce que tu l'as reçu du Vatican. Donc, lui s'imaginer que où qu'il aille, le prêtre lisait partout un texte qui venait de Rome.
C'est pour ça.
Donc, il était persuadé que. Il avait traîné ses lettres dans plusieurs paroisses, donc il avait entendu plusieurs prêtres, puis même dans la paroisse que j'étais, j'étais pas le seul prêtre, donc il avait entendu plusieurs prêtres prêcher, et à chaque fois, il pensait que par mail, on recevait par Rome ce qu'il s'agissait de lire. Voilà.
C'est très facile.
Alors, quand on vient de l'extérieur.
C'est bien.
Pour quelqu'un de l'intérieur, ça paraît. Moi, je suis tombé du placard. Hein. Voilà. J'étais à des années-lumière. D'imaginer ce qu'il imaginait. Mais quand on vient de l'extérieur,
c'est sûr. Surtout que toute une autre partie, on nous dit que partout le dimanche, hein, sur toute la terre, on est lié sur les mêmes paroles. Donc jusqu'où ça va?
Oui, jusqu'où ça va. Et alors, si j'applique aux étudiants, quand je dis, par exemple, aux étudiants séminaristes en général, quand je leur dis, il n'y a pas une théologie catholique. Il y a plusieurs théologies catholiques. En général, ça les...
Là, ça coince.
Et je leur dis, il n'y a pas un sens normatif de l'écriture. Il y a plusieurs sens. Alors là aussi, ça coince. Et je leur dis, mais en 2000 ans d'existence, nous avions largement le temps de produire le commentaire normatif de l'Évangile. Non seulement nous en avions le temps, mais il se trouve que nous avons pieusement conservé, et c'est pour notre plus grand avantage, des commentaires complets parfois du Nouveau Testament qui ont pu à l'occasion, pour certains d'entre eux, être produits par des personnages cumulant un certain nombre d'autorités dont on peut difficilement imaginer plus grande autorité ici-bas. Par exemple, Saint Léon le Grand, qui est docteur de l'Église, pape, saint. Waouh!
Et martyr, non?
Non, il n'est pas martyr, ça manque.
Mais il est témoin quand même.
Or, jamais l'Église n'a fait ça. Et tout au long des siècles, elle a constitué des homélières pour aider les prêtres. Il y a des, et pour la méditation des fidèles s'ils le veulent. Donc, il y a des homélières. On a des homélières du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Encore aujourd'hui, il y a des homélières qui sont régulièrement produites. Donc on a des homélières. Jamais l'Église n'a fait d'aucun d'eux un texte normatif. Jamais. Alors même, que je le répète, certains des auteurs, on a les commentaires d'Ambroise, on a les commentaires d'Augustin. Saint-Augustin. On a un commentaire complet d'Évangile selon Saint-Jean de Saint-Augustin. Et si on monte, on a quatre évangiles. Et ils ne sont pas compatibles complètement entre eux. Donc oui, il y a une unité, mais elle n'est pas ni disciplinaire, ni doctrinaire. Il y a... Alors, est-ce qu'il faut parler comme ça? Le terme est un peu moche, froid. Il y a un cadre, un espace à l'intérieur duquel il y a plusieurs possibilités d'incarner, de recevoir ce dont il s'agit. De la même manière qu'il y a plusieurs spiritualités, et qui sont également chrétiennes, et voire également catholiques. Vous avez des spiritualités qui vont mettre l'accent sur le péché, le rachat, la pénitence, d'autres qui vont mettre l'accent sur la lumière, la résurrection, la vie éternelle, d'autres qui vont mettre l'accent sur la contemplation, l'introversion, la quête intérieure, le cheminement intérieur, d'autres sur l'action, la solidarité, le combat pour la justice. Elles sont, j'allais dire, ça valent toutes, mais même c'est stupide de parler comme ça. Enfin, c'est le christianisme dans sa légitime diversité. Et cette diversité, visiblement, Alors, elle est toujours en tension, les saints entre eux ne se comprennent pas toujours, il y a des engueulades fameuses de saints, et dès les évangiles, hein. Entre les apôtres, ça fritait beaucoup, et entre Pierre et Paul, c'était pas simple, hein. C'était pas simple. Les deux bons hommes, hein, la relation était très compliquée. Donc, les saints ne s'entendent pas toujours, il y a des querelles théologiques encore aujourd'hui qui peuvent être très violentes, donc ça n'est pas Irénée, ce n'est pas ça vient de lire, hein. Ce n'est pas Irénique, enfin ça vient son nom, ce n'est pas idéal dans ce sens-là, il y a des tensions, il y a des querelles, il y a des incompréhensions, mais néanmoins il y a une convivence, une reconnaissance réciproque, une capacité à tenir ensemble, et la pierre angulaire de cette unité, c'est quelqu'un d'autre. Alors c'est pour ça que j'ai l'habitude aussi de dire à mes étudiants en théologie dogmatique que la théologie dogmatique, ce n'est pas la théologie au garde à vous. Et nous évoluons dans notre compréhension de la révélation au cours des siècles. Il y avait une main levée là-bas.
Oui. En fait, je voulais juste, si vous pouviez revenir sur ce que vous avez dit en parlant de Blondel, vous avez dit que c'est dans la réception que cela se joue.
Oui.
Et bon, c'était un peu votre intervention, mais du coup, il y a un postulat que ce n'est pas pour tout le monde. Et ça me gêne.
Non, pourquoi vous dites ça?
Enfin, je veux dire, c'est dans la manière de recevoir.
Ah, parce qu'on exclut l'historien, c'est ça?
Oui, enfin, on exclut les gens qui seraient un peu à pensée froide, rationnelle.
Alors non, en revanche, on exclut, je ne sais pas si on exclut, mais on dit comme Irénée que ce qu'il s'agit ici de savoir suppose un contact qui est à disposition.
D'accord. Il demande réponse de ce. Dieu est au contact, mais ça demande une réponse de celui qui est censé recevoir.
Oui, et puis il y a un contact, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il s'agit de connaître ne se transmet pas seulement, ça se transmet par le truchement de la lettre, mais pas qu'à travers la lettre. Sinon, on se serait coupé au moins une main, on se serait arraché au moins un œil, en tout cas moi.
À partir de quel moment on sait qu'on est dans l'interprétation?
On est toujours dans l'interprétation.
Parce que, vous dites
toujours.
Ne pas interpréter le
comme texte. Comme dans toute relation. On est toujours dans l'interprétation.
Mais à ce moment-là, on peut dériver sur le texte. Enfin, je veux dire, quelle est la limite?
On est toujours menacé.
Quel est le cadre? On peut sortir du cadre, quoi.
On peut toujours sortir du cadre. C'est pour ça que la dimension collective est très importante. D'accord. Il y a c'est pas le temps que je cherche, il y a un contrôle, c'est pas très beau, il y a un contrôle réciproque, je sais pas ce qu'il faut dire. Il y a quelqu'un qui a mieux, parce que contrôle ça fait un peu...
Maîtrise,
ouais.
Regard croisé.
Et c'est toujours partiel, aucun d'entre nous ne réalise le tout de ce qu'il y a à recevoir. Matthieu n'épuise pas tout le mystère du Christ, Jean non plus, il faut Matthieu, Marc, Luc et Jean. Puis il ne faut pas que Matthieu, Marc, Luc et Jean, il faut tout le reste du Nouveau Testament. Puis il ne faut pas que tout le Nouveau Testament, il faut aussi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Puis ça ne suffit pas, il faut la communauté croyante pour le recevoir. Puis ça ne suffit pas, il faut que la communauté croyante se saisisse de ça en regardant tout ce qui l'entoure, parce que ça aussi, ça a le même auteur. Donc la nature, la création, les sciences, le concert des cultures, des rationalités. Et donc il y a toujours quelque chose de partial et de partiel. Mais Paul le dit, hein. Ma connaissance est partielle, dit Paul. Je le réhabilite parce que je l'aime beaucoup.
Alors, du coup, là, quand est-ce qu'on met la limite? Parce que, par exemple,
quand est-ce qu'on a là?
La limite.
Oui.
On prend le protestantisme,
oui.
Qui dit aussi plein de choses très intéressantes,
oui.
Mais dans lequel il y a un moment où on va plus se reconnaître. Et quand on prend les protestants, ils ont aussi 50 000 mouvements, dont les mouvements, il y en a un qui s'appelle Évangile et Liberté, ou je ne sais pas, qui est extrêmement progressiste et tout. Moi, il y a un moment où j'écoute, je me dis non, là, stop, c'est plus possible. Donc, je trouve que c'est très intéressant cette ouverture, mais en même temps, où est-ce qu'on met les.
Alors, moi, je n'ai pas parlé du protestantisme là, hein, j'ai parlé du catholicisme. Du côté du protestantisme, on a demandé à quelqu'un de plus compétent que moi. ce que moi j'observe, je parle en catholique évidemment, et donc je ne sais pas si un protestant serait complètement d'accord, il serait probablement pas complètement en désaccord avec ce que je vais dire, mais il dirait oui, mais là c'est un catholique qui parle. Et bien sûr, mais je ne peux pas complètement me défaire de ce que je suis pour. Voilà. Alors, donc, comme catholique, et sans être particulièrement expert du monde protestant, donc je dis ça aussi d'assez loin, même si j'ai une partie de ma famille qui est protestante, qui est suisse et protestante, ça donne ceci, c'est-à-dire que Luther, il s'est posé cette question-là, hein, et il a dit l'écriture seule. À quoi il a adjoint la foi seule, et à quoi il a adjoint la grâce seule. Alors déjà, on a évolué. L'accent a été mis sur le sola scriptura, l'écriture seule, mais chez Luther, il y a trois solés. Il y a trois seuls. Donc il n'y a pas que l'écriture, il y a l'écriture, la foi et la grâce. Déjà, c'est plus complexe que.
C'est souvent une opposition.
Et dans la postérité, luthérienne, donc ça a été d'abord entendu comme un rejet de la dogmatique. Or, le monde protestant a fini par produire lui-même une dogmatique. Jusqu'à donner ce titre-là à certaines des productions littéraires majeures de la théologie protestante. Majeures. Après, le même Luther avait dit le patrimoine commun du christianisme, c'est les conciles les huit premiers conciles, les conciles du premier millénaire, qui sont la structure, l'architectonique de la foi protestante. La question, or, du coup, la question se pose, pourquoi interrompre au bout de 1000 ans? Et donc, il y a eu continuité dans certains mouvements protestants de la production de credos. C'est-à-dire, alors ce n'est pas une activité conciliaire au sens où les catholiques la conçoivent, mais il y a eu la continuité de la production de textes servant de référence pour dire ensemble, et chacun dans sa singularité, ce dont il s'agit. Ça, c'est côté protestant. Dit par un catholique qui, en plus, n'est pas très compétent et qui voit ça de loin. Si maintenant... là, je suis beaucoup plus compétent. On voit, côté catholique, notre arbitrage, chez nous aussi, il est en tension. Il y a des périodes où on a dit, tous derrière le pape, et c'est lui qui nous dit ce qu'il faut croire, ce qu'aucun pape n'a jamais dit. Même Pie IX, qui est le pape de l'infaillibilité pontificale. Lui-même, pourtant, Pie IX, je vous assure que ce n'était pas un pape marrant. Hein. Et pas seulement parce que c'était le pape de l'infaillibilité pontificale. Il est le représentant du catholicisme intransigeant. Et waouh, c'est le plus intransigeant de tous les pis. Et il y en a eu pas mal, il y en a eu 12. Et même Pie IX n'a jamais dit ça. Ce que, par exemple, certains évêques, dont j'ai pas retenu les noms, je dois avoir ça quelque part dans mes cartons, français ultramontains, ont dit. Il y a tel évêque français de la fin du 19e ou du début du 20e, ultramontain, c'est un courant du catholicisme français durcissant le rôle de Rome dans la foi catholique. C'est-à-dire aboutissant à des phrases du genre pas les lois de Dieu sont au-dessus de celles de la République, mais aboutissant à des phrases du genre ce que dit Rome, c'est au-dessus de ce que dit l'État français. Donc dans le mouvement ultramontain, il y a des évêques qui disaient « Le fidèle demande à son curé ce qu'il doit croire, le curé demande à l'évêque ce qu'il doit répondre au fidèle, et l'évêque demande au pape ce qu'il doit répondre au curé. » Jamais aucun texte Vatican I n'a jamais dit ça, Pie IX n'a jamais dit ça, la théologie catholique n'a jamais dit ça. Il y a bien, côté catholique, une réception pourtant qui va dans cette direction-là. On a eu l'autre extrême. On a eu la crise conciliaire au Moyen-Âge, on a revendiqué un parlementarisme revêtu de l'autorité suprême pour dire la foi. Et ça aussi, ça a été récusé. Donc on voit bien que côté catholique, où est le lieu d'arbitrage? Ça se cherche. Et avec Vatican II, on aboutit à quelque chose de très ample. On vous dit l'arbitrage, c'est tous les évêques enseignant un enseignement partagé en communion avec le pape, ou bien le pape s'exprimant seul mais en communion avec les évêques, et c'est tout ce petit monde-là, celui des mitrés, en tant qu'ils sont chacun et ensemble l'incarnation, la réalisation personnelle d'une infaillibilité qui est celle de l'Église des baptisés. C'est-à-dire, du côté de la théologie catholique, on est très au clair avec le fait que l'Église n'est pas infaillible parce que le pape l'est. C'est l'inverse. Le pape est infaillible en tant qu'il incarne dans des périmètres extrêmement circonscrits, en tant qu'il incarne, en tant qu'il réalise personnellement une infaillibilité qui n'est pas la sienne en propre, en tant qu'il s'appellerait ou Jean-Paul, ou Benoît, ou Pie, ou François, ou je ne sais quoi encore. Mais en tant qu'il réalise personnellement une infaillibilité qui est celle de l'Église, des baptisés. Et donc, je pense du coup que si la question est quel est l'organe qui arbitre, du point de vue disciplinaire, c'est la hiérarchie qui arbitre. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'elle arbitre disciplinairement qu'elle arbitre sur le fond toujours. Je dis la même chose autrement, l'autorité hiérarchique peut arbitrer d'une manière qui relève pour elle de l'erreur, sauf quand il s'agit de la foi, mais là c'est un acte de foi. Je donne un exemple, Pie XII disant, le polygénisme, c'est-à-dire l'idée que l'humanité ne dérive pas d'un seul couple, mais que l'humanité, c'est la conjonction de phylums, de lignées anthropomorphes qui se sont interfécondées. Il demande que ce ne soit pas enseigné dans les niveaux élémentaires des facultés de théologie. Et il dit qu'il ne voit pas comment c'est compatible avec le dogme du péché originel. Et c'est dans une encyclique. À peu près, un peu plus de... que je réfléchisse, un peu moins de 50 ans plus tard, un autre pape, Jean-Paul II, dit... Donc l'hypothèse que l'humanité vient de plusieurs phylums, ça s'appelle le polyphylétisme. Autrefois on disait polygénisme. Et Jean-Paul II dit en 1990 et des brouettes, donc un peu moins de 50 ans plus tard, il dit que c'est plus qu'une hypothèse, et il ne revient pas sur la question du péché originel. Or, Pie XII avait arbitré. Alors il n'avait pas arbitré, il n'a jamais condamné le polyphylétisme, en revanche il a exclu des facultés de théologie. Donc il y a un arbitrage, hein. Donc, où est l'arbitrage hiérarchique? Ça, on sait chez les cathos. Et il ne faut pas dogmatiser tout arbitrage hiérarchique. Et du côté catholique, l'arbitrage dogmatique, il est toujours, je crois, après là je me détermine comme dogmaticien, hein, je crois qu'il a toujours comme lieu, et beaucoup plus qu'instance, il faut parler de lieu, l'Eucharistie. C'est-à-dire la capacité que nous sommes de célébrer ensemble, dans notre diversité et dans notre communion, le même mystère, et de le dire d'une manière consonante. Ici, je suis en train de parler de l'acte de réception. Alors, ce que je vous dis là, je me détermine, mais il y a un élément qui va dans ce sens et qui est très fort, c'est que, de la même manière que l'Église, en 2000 ans, n'a jamais produit un commentaire normatif et obligatoire des évangiles, et finalement, chaque dimanche, j'aurais plus qu'à lire le commentaire en question, voilà. De la même manière, l'Église n'a jamais produit de liste de dogmes. Ça n'existe pas. Parce que, in fine, ce dont il s'agit, c'est l'acte de réception du corps des baptisés, c'est-à-dire notre capacité à le célébrer ensemble dans l'Eucharistie. Et donc, il y a une instance hiérarchique, disciplinaire et contraignante qui est très facile à identifier, si ce n'est que il n'est pas vrai qu'elle soit complètement homogène, et on voit bien qu'à l'intérieur de cette instance hiérarchique et disciplinaire, il y a des gros conflits de foi. Par exemple, en ce moment, entre Rome et les États-Unis, c'est très violent. Voilà, ils ne sont pas d'accord. Après, un curé américain, bah, il peut avoir un conflit de loyauté, mais enfin théoriquement, son autorité, son N plus 1, c'est son évêque. Et, mais il ne s'agit pas de dogmatiser tout ce qui vient de cette norme hiérarchique et disciplinaire. Quand il s'agit de décider de ce qui relève du vrai, de la révélation, on a affaire à quelque chose qui est beaucoup plus symphonique, et donc beaucoup plus complexe en ce sens-là, mais qui a un lieu. Et ce lieu, c'est l'Eucharistie, je crois. D'ailleurs, dans le premier millénaire, quand les chefs d'église se fâchaient, et les orthodoxes font ça encore aujourd'hui, quand les chefs d'église dans le premier millénaire se fâchaient, autrefois au premier millénaire, on citait au canon de la messe tous les autres chefs d'église. Et quand ils se fâchaient, ils supprimaient de la liste. Et aujourd'hui, vous savez ça. Je ne sais pas où ça en est actuellement, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a l'année dernière ou il y a deux ans, enfin, là, il y a un conflit très fort entre l'orthodoxie russe et l'orthodoxie grecque. Et pendant, il n'y a pas très 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 longtemps, le Moscou avait rayé de ce qu'ils appellent. Comment ils appellent ça ? Bref, avait rayé du memento des chefs d'église le patriarche de Constantinople, qui n'était plus nommé. Hein. Mais c'est intéressant cette pratique, c'est-à-dire le fait de pouvoir se nommer, s'appeler dans la même célébration et dans sa diversité. Je crois que c'est là le lieu où on vérifie cette unité. En tout cas, historiquement, c'est très probablement l'Eucharistie comme lieu qui a été déterminante dans la fabrication définitive du Nouveau Testament. Il y avait plein d'écrits qui circulaient et le tri. La mise en forme, la reliure définitive, c'est très probablement dans le cadre de la liturgie eucharistique que ça s'est joué. Oula, on est parti très loin là. On reprend. Alors, donc jusque-là, tout le monde est OK ? Bien. Ces points d'attention que nous devons à Irénée nous ont permis deux choses. Un, revenir au texte biblique et constater qu'il procède à des reconfigurations radicales de notions clés, loi, bénédiction, malédiction, etc., ouvrant ainsi un chemin pour nous aussi. Lire le Nouveau Testament ne me renvoie pas à un passé révolu, normatif, un âge d'or qu'il s'agirait de mimer. Lire le Nouveau Testament me renvoie à une expérience normative pour vivre la mienne et la nôtre aujourd'hui. Ça ouvre un chemin pour moi aussi. Spirituellement, on est à peu près tous passés par là et on continue. Je vous donne un exemple. Le chrétien fervent, commençant dans la vie, à moins qu'il n'ait eu des gros soucis à son démarrage, ce qui peut arriver, mais. Il ne va pas avoir trop de soucis à décréter, à déclarer que Jésus est sauveur. La première fois où il va tenir la main d'un mourant à l'hôpital et d'un mourant qui meurt dans une situation scandaleuse, parce que par exemple c'est un enfant, ou c'est une jeune maman et qui a des enfants bas âge, ou bref, il va continuer de dire que Jésus est sauveur, mais il va bien comprendre que ce que ça veut dire, sauveur, c'est à reconfigurer sérieusement. Parce qu'il va probablement prier avec toute son énergie pour que Dieu fasse quelque chose, et il arrive à Dieu de répondre. Et Dieu répond toujours, mais pas toujours de la manière qu'on attend. Alors il va reconfigurer, qu'est-ce que ça veut dire prière ? Qu'est-ce que ça veut dire prier ? Qu'est-ce que c'est que demander à Dieu ? Dieu entend-il ? Dieu exauce-t-il ? Pourquoi Dieu exauce-t-il ? Pourquoi la réponse de Dieu est-elle parfois si décevante, et même souvent si décevante ? Comment continuer de dire que Jésus est sauveur alors que ça se voit si peu ? Ben, tout le Nouveau Testament est passé par là, et l'Ancien aussi. C'est l'aventure biblique, ça. Je vous donne un autre exemple. Pendant des siècles, le peuple élu ne croit pas en une vie après la mort. Il s'en fout complètement. Le Dieu, Dieu est Dieu maintenant. Et on vous dit, Isaïe vous dit, dans la tombe qui te louerait, nulle espérance pour ceux qui sont au Sheol. Il ne dit pas ça dans un cri de désespoir. C'est, ça leur va très bien aux anciens. ils n'ont pas de ils n'attendent rien après la mort. Pour eux, après la mort, on est au Sheol, et le Sheol, c'est une sorte d'existence amoindrie, de sommeil paisible pour les justes, mais on est au l'ombre de soi-même. Et on n'est plus en relation avec Dieu. Comment la foi en l'univers après la mort est-elle née? Elle est née de la confrontation entre, d'une part, les promesses que Dieu avait faites et qui étaient lues par le peuple comme étant essentiellement historiques. Respecte l'alliance et tu auras une terre et une descendance nombreuse et la prospérité. Et la situation constatée. Déportation ou bien occupation. Persécution, disparition de la lignée royale davidique, qui s'est perdue dans les salles de l'histoire, où sont les promesses de Dieu? Et c'est à partir de cette question qu'est née une foi en une vie après la mort. C'est-à-dire, Dieu a promis, ses promesses visiblement ne se réalisent pas toutes à hauteur d'histoire, c'est donc que Dieu les réalisera autrement. Que seulement à hauteur d'histoire, ou que d'abord à hauteur d'histoire. Et, mais donc, l'Ancien Testament en particulier est traversé par ce débat, ou un autre débat. Je vous ai dit, respecte l'alliance et tu auras une terre, une prospérité, la prospérité, etc. Mais très vite, l'Ancien Testament constate que c'est pas si simple. Vous avez le thème du juste malheureux, Job. Alors du coup, Job, ça nous envoie vers une autre réflexion, la réflexion de l'épreuve. Dieu nous éprouve-t-il? Comment? Et à l'extrémité, vous avez Jacques qui intervient dans le Nouveau Testament et qui dit « Dieu n'éprouve personne ». Vous voyez? Donc, ce qui est en débat pour nous, c'était déjà en débat là.
Aussi la façon qu'on a de recevoir le sacrement des malades, avec Jésus sauve, là. Voilà.
C'est ça l'aventure biblique, hein. C'est d'entrer dans ce cheminement qui continue.
C'est ça que j'ai mis ça encore, c'est au chemin pour nous aussi. Alors on est allé voir deux textes, enfin surtout on est à Galates 3, mais il y avait aussi Romains 5 de mémoire. Je me suis surtout appesanti sur Galates 3. Vous avez retenu par plus, je m'en fiche complètement, ça n'a aucune importance. La seule chose que je voulais vous faire sentir, c'est, voyez, dans le texte même, c'est truffé de plus que d'indices, de signaux qui vous disent, attention, on travaille le concept, la notion, le récit, et on le projette dans des directions très différentes, très reconfigurées, très inattendues. Par exemple, loi. Et nous aussi, hein, si vous avez une expérience de catéchèse, vous, quand vous étiez enfant, ou vous en situation de catéchiste, vous voyez bien que selon les générations, selon les époques, selon les lieux, selon les milieux, il y a un rapport à la pureté qui va être parfois très compliqué. Hein, et pas toujours très chrétien. Hein, avec une inquiétude là, d'impeccabilité, de propreté, de oulala, avec des côtés un petit peu...
C'est un peu obsessionnel.
Oui, un peu obsessionnel et un peu pudibond, mais c'est pas ce que je cherche. Prude, oui, vous voyez.
Pudeur mal placée.
On passe par là. Voilà. Et le deuxième résultat, c'est. Hop. Allez. C'est le 2. Appréhender avec plus de recul et de sérénité le dialogue science et foi. Si on a bien compris que la révélation que sait-on, c'est tout ce qui précède, ben, ça permet d'avoir plus de sérénité dans le dialogue science et foi. Par exemple, la création, que sait-on? Pas que Dieu, il lui a fallu 6 jours et pas 5 ou 9. C'est pas ça que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est que dès le rapport avec le monde, il y a quelque chose qui se joue de notre rapport avec Dieu. Il s'est mis dans cette création. Il l'a faite avec cœur. Et quand je dis ça, j'ai conscience d'utiliser une image. Parce que Dieu n'a pas de main et Dieu n'a pas de cœur. Bien sûr que c'est une image. Donc, que sait-on? Parce qu'à la limite, si ce qu'il s'agissait de savoir, c'est qu'il lui a fallu 6 jours, bah, à la limite, il aurait été plus impressionnant s'il ne lui en avait fallu qu'un. Vous voyez bien que c'est... Pourquoi 6 et le 7e, il se reposa? Parce que vous avez toute la théologie du Shabbat qui est derrière. Le rapport au temps, avec un temps différencié. Et il y a 6 jours pour travailler, pour perfectionner la création de Dieu, et un 7e pour rendre grâce, c'est-à-dire que tout être humain est appelé à cette dimension sacerdotale qui consiste à prendre la création pour l'offrir en action de grâce à Dieu. Tout être humain, et pas simplement les curés. C'est tout ça que nous dit le texte. Que sait-on, hein? Le fait que dès le rapport au temps, aux choses, à la nature, à l'activité, là-dedans déjà, se joue notre relation à Dieu. Dans les deux sens. De lui vers nous, et de nous vers lui. Ça va? Ça ne veut pas dire qu'il puisse jamais y avoir conflit. Par exemple, quand certains scientifiques s'appuient sur des données scientifiques pour en conclure que l'homme n'est que matière, là, nous, on dit non. Et on dit, ce n'est pas un résultat scientifique. C'est une interprétation de la part de scientifiques, de données scientifiques, mais c'est déjà une interprétation. Bien sûr qu'on peut rentrer en conflit avec certains énoncés de ce type-là. Je ne suis pas du tout en train de dire, chacun chez soi, tout ira bien. Et bien sûr qu'il faut, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, que l'expérience de la révélation suppose l'écoute symphonique de tous les rapports au vrai, des différentes rationalités, etc. Je ne suis pas du tout en train de dire, chacun chez soi, chacun son troupeau de vaches, et on dresse une bonne clôture étanche entre les deux, et là, voilà. Je suis pas en train de dresser un mur, mais nous ne parlons pas tout à fait de la même chose, donc ça permet plus de sérénité, et quand il peut y avoir conflit, quand il y a conflit, ça porte non pas, ça a pu porter sur le dur des sciences, et là on s'est planté, par exemple l'affaire Galilée, ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas porter sur les interprétations. Il y a un astrophysicien là, nordique, là, le nom m'échappe, par exemple, qui a dit que lui, sa science de la cosmologie l'entraînait à postuler l'existence d'un Dieu indifférent à l'univers. Et il y a d'autres astrophysiciens qui lui ont répondu, qui ont dit, mais tu peux dire ça si tu veux, mais il n'y a rien qui oblige. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde... Là, on est sur le squelette. Hein. Là, pas tout ce que j'ai dit sur l'Eucharistie, l'unité, les protestants. Là, je réponds à vos questions, là. Mais ça, donc, le squelette, c'est pas tout ce que j'ai dit depuis presque une heure, même une heure. Le squelette, c'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui. En fait, ça veut dire qu'à chaque instant de notre vie, que ça soit malheureux ou heureux, puisqu'on dit qu'on reconfigure, les textes sont enfin, valables, entre guillemets, enfin, sont, on peut...
Ah oui, oui, ils sont là, mais on les lit autrement. Hein. On les lit autrement.
On les lit autrement, voilà, ouais, c'est ça.
On les lit autrement, voilà.
Donc on peut les lire dans toutes les... Oui.
Oui. Alors il y a des moments de crise, hein.
Oui, complètement.
Des moments on peut être fâché, hein, avec le monde, ça arrive. Hein.
Donc on peut dire, c'est pas la lettre, c'est vivant. C'est
l'air. En plus, la lettre tue l'esprit vivifie, c'est Paul qui dit ça. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde comprend plus?
C'est
juste un peu plus clair.
c'est bien d'avoir ça.
Bon, alors les deux ouvertures vite fait, mais là je ne développerai pas. Parce que c'est pas mon courant. Et puis parce que il faut rentrer dans l'étape suivante. C'est. Il y a un sous-entendu, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, il y a un postulat, il y a une donnée que je mobilise depuis le début sans le dire, et qui est, alors, j'allais dire la Trinité, j'en ai déjà parlé, mais une conséquence de l'accueil, de l'enregistrement de cette donnée révélée-là, que Dieu est Trine, c'est que la foi en Dieu Trinité nous permet de comprendre que nous ayons affaire à un Dieu capable d'un univers, d'un monde, d'une création qui soit libre et autonome, qui soit établie dans son ordre propre. J'explique. Dieu Trinité, ça signifie que Dieu en lui-même est capable de la différence. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Père et le Fils ne sont pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Père et le Fils. Et pourtant, Dieu est unique, Dieu est un. Et en plus, l'existence du Fils et de l'Esprit, c'est une position par le Père de ces vis-à-vis-là. Le Fils procède du Père, et pour les catholiques, l'Esprit procède du Père et du Fils. Pour les orientaux, l'Esprit procède du Père. Donc c'est une position éternelle, il n'y a jamais un moment où il n'y aurait que le Père sans le Fils et l'Esprit, Dieu est un. Mais il y a, en Dieu, il y a un mouvement. L'éternel, il y a un mouvement. Il y a un dynamisme. Donc Dieu est capable d'altérité en lui-même, il est capable de mouvement en lui-même, et Dieu est communion. Et donc quand il crée, il est capable de créer une réalité en face de lui qui soit consistante dans son ordre. C'est pour ça qu'il y a des ordres du savoir différents. C'est-à-dire, je peux explorer la création et éventuellement être amené à un acte de foi à travers ce que j'observe, mais je n'ai pas besoin de la foi en Dieu pour explorer ses fonctionnements. Étant entendu que l'exploration de la création avec le parti pris qu'elle est explicable, c'est un acte de foi, pas en Dieu, mais c'est un acte de foi en l'explicabilité de la nature. Et cet acte de foi n'est pas démontrable.
C'est bon, merci.
Donc faire de la science ne se fait pas sans foi, c'est-à-dire qu'il faut quand même croire en quelque chose, c'est-à-dire croire que c'est explicable, mais ça peut se faire sans croire en Dieu. Et ça, c'est particulièrement compréhensible à partir de la méditation du Dieu Trinité. Alors je vous donne un exemple, on revient à saint Thomas que j'ai déjà cité la dernière fois. Saint Thomas va dire, alors ça choque en général les chrétiens, mais c'est très important, saint Thomas va dire, oui, en un certain sens du hasard, le hasard, existe. Dieu pose en face de lui encore une altérité, c'est celle du monde, et c'est consistant. Le monde n'est pas lui, et lui n'est pas le monde. Et donc le monde réside en son ordre propre. Et donc, en un certain sens, il y a bien du hasard. Il y a aussi une providence, hein. Attention, quand je dis qu'il y a du hasard, je ne suis pas en train de dire « Dieu se désintéresse de notre destin, de notre histoire, et tout suit son cours, et Dieu s'en fout. » Il a juste appuyé sur « Entrée », il a ouvert le logiciel monde, il a appuyé sur « Entrée », puis après, il s'est barré. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Vous voyez ? Et donc, le constat que le monde suive son cours avec ses mécanismes propres, d'une manière qui ne fait pas intervenir le miracle à chaque mécanisme, c'est précisément l'acte créateur de Dieu Trinité, ça. Et donc, Thomas vous dit, le hasard c'est quoi ? Le monde est régi par des causes qu'il appelle secondes, Dieu étant la cause première, et une cause première qui n'est pas au même étage que les causes secondes. Vous vous rappelez de la dernière fois, hein ? Les causes secondes, elles sont dans le temps, dans le continuum cause-effet. La cause première, elle est en dehors de cela. Donc nous sommes à l'étage des causes secondes, le monde est régi par les causes secondes, et le hasard, c'est des rencontres fortuites de lignées causales secondes indépendantes au départ, et qui se croisent. Donc Dieu est derrière tout ce qui nous arrive, en ce sens que rien n'existe sans être supporté par lui. Le temps est parce que Dieu éternel l'embrasse, si je puis dire, mais Dieu n'est pas derrière tout ce qui nous arrive dans le détail.
On ne peut pas dire que ça lui échappe.
Comment dire ça ? Non, on ne peut pas dire que ça lui échappe. Moi, j'ai droit à un café, pas vous.
Parce que nous, on a le droit à une
pause. Allez, pause, pause. 5 minutes. Alors, ça, je ne développerai pas, Julie. Hein. Mais venez me voir pendant la pause. Là, là je vous mets à rude épreuve. Il faut choisir entre la question ou la pause. 5 minutes de pause.
Vous aviez dit deux couvertures, ça c'est la première, vous allez traiter la deuxième après tout.
Oui.
Il y en a qui suivent.
Oui. Approchez-vous parce que je ne vous entends pas assez. Approchez-vous. Oui.
Comme vous dites que Dieu n'est pas là, donc il n'est pas derrière tous les détails. Alors il est où ? Dans quel détail il est ?
Ah, voilà ça. On va retomber à pied-joint sur la question de tout à l'heure. Parfois, c'est question d'interprétation personnelle.
Donc c'est les signes, oui, mais alors à ce moment-là, soit on voit trop, soit on interprète tôt, soit on voit partout, soit on ne voit pas.
Non, c'est pas facile. C'est pas facile et parfois ça se fait avec le temps.
Parce qu'il y en a qui sont éliminés, qui voient partout, il y en a d'autres.
Oui.
Ah, bah, tu ne vois pas du tout. Hein. Bah, je veux dire, ça serait compliqué.
Par exemple, moi ça m'agace quand j'ai affaire à certains de mes copains qui sont persuadés qu'à chaque fois qu'ils trouvent une place de voiture, c'est parce que le bon Dieu est intervenu, donc ça m'agace un peu. En revanche, oui, ça nous arrive, en tout cas moi ça m'arrive. Dans tel événement fortuit qui de l'extérieur ne manifeste absolument pas, enfin ne relève d'aucune nécessité à postuler l'action de Dieu, ça m'est arrivé, moi, de commencer d'y voir.
C'est ça, voilà. Oui. Il ne faut pas non plus le voir partout. Quoi.
Non.
Ben voilà, vous avez
non.
Un peu sur le bouton.
Non.
Voilà, il y en a qui ne le voient pas partout.
Oui.
Moi, ça me trouble.
Oui.
D'accord. Non. C'est pas facile de discerner.
Non.
Bon, alors moi, j'ai une autre question.
Oui.
Dieu est une fille à postuler ça.
Ah, la Bible. La Bible, Dieu est unique.
D'accord, donc s'il y a déjà un...
C'est le dogme, c'est le premier dogme.
Oui, d'accord. Ouais.
C'est un dogme juif et donc chrétien. Dieu est un et Dieu est unique.
D'accord, il faut déjà arriver dans la Bible. Il y a une démarche.
Oui.
Je ne crois pas, qu'il soit la Bible, qui a inventé ça.
Oui. Oui, c'est vrai.
C'est encore le cours 28.
Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.
Approchez-vous parce que j'ai trop
ouvert,
de bruit.
Oui, vous avez ouvert une sacrée caisse.
De quoi ?
L'intervention de Dieu dans le monde.
Ah oui, c'est salaud de ma part. Hein. C'est un peu sadique parce que j'ai dit que je ne développerai pas et je vous plonge dans le bain de friture et je vous laisse bouillir là-dedans. C'est dégueulasse.
Ça pose beaucoup de questions.
Oui. Donc il faut continuer de faire de la théologie.
Quand on écoute les intentions de la mère, on demande à Dieu qu'il faille parfaitement la paix, la mère. Depuis le temps qu'on dit ça, est-ce qu'on a constaté que le monde soit moins conflictuel, moins...
Mais rendre théologiquement compte de la prière de demande, c'est redoutable. Hein. Pour la raison que vous dites, depuis le temps, les effets, on pourrait s'attendre à d'autres effets, un. Et deux, mais Dieu sait déjà ce qu'on veut lui demander, alors pourquoi faut-il le lui demander ?
Oui, ça c'est vrai, deuxième question.
Ouais. C'est redoutable ça.
Je me souviens de...
Alors Augustin vous répond, mais moi j'aime pas sa réponse, je la trouve insuffisante. Augustin vous dit, oui, non mais il faut demander à Dieu, pas pour lui, il faut demander à Dieu pour soi. C'est-à-dire c'est soi-même qui change, c'est moi qui change quand je lui fais la demande. Ça me paraît très, très insuffisant comme réponse.
Ouais. Simplement.
En fait, c'est Élisabeth qui pose la question. Il a dit ça à Diocèse. Alors, il cite Élisabeth. Alors, le texte complet d'Élisabeth, c'est. Donc tout le camp était rassemblé pour l'exécution capitale d'un garçonnet, d'un ado, où c'était atroce. Et quelqu'un a dit, derrière Élisabeth, il a dit, mais où est Dieu ? Et un autre a répondu, en face.
Ouais.
C'est bouleversant.
Oui, mais la clé de
l'Église. Ah.
Le problème de la liberté de l'homme aussi.
Oui. Ouais.
Tellement immense que vous n'avez
plus
de réponse.
Non.
On a un texte à travailler de Bernard Sestoué,
oui.
Où justement là au début on parle beaucoup d'évangile comme parole et pas comme lettre et en continuel.
Ah, c'est bien ça.
C'est super.
C'est bien ça. Ça rejoint vachement ce qu'on a dit là. Hein.
Ouais, c'est pour ça que je vais te parler de quel texte qu'on a.
Les deuxième partage qu'on a fait.
Pour le prochain groupe.
Ah oui, le groupe, c'est génial.
Je pas encore. Parler de Mehdi.
Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu.
Je crois que ça vaut la peine.
Ah oui.
Il nous dit de faire de publicité pour lui. Mais
oui, c'est bien.
Il est très sympa et très fort.
Ah oui. Ah oui.
Oui, un musulman jeune, 35 ans, qui raconte un peu de sa famille Maurice, qui est un show du village, très très brillant. C'est rigolo, vous voyez. Ah, c'est sympa comme tout ça. C'est rare qu'un artiste qui fait ça. Merci monsieur. Hein. Merci. Ah, ça, je ne l'ai pas lu ça.
C'est ce qu'on a tous à travailler pour le prochain.
C'est un extrait de quoi ?
Ah, 31 pages quand même.
Non, pas du tout. Ah non, c'est un autre quoi ?
Non, c'est pas quoi ? Ah oui, l'évangile à la traduction. Ah oui, il faut que je le demande celui-là.
Je ne l'ai pas eu. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a pris pour vous.
Alors, y aller. On va recommencer. On y va ? Alors, le prolongement, parce que il y en a qui s'affrontaient jusqu'à deux. J'en avais promis deux et je n'en ai fait qu'un. Le prolongement, il est un tout petit pas supplémentaire à peine, mais pareil, je ne développerai pas parce que ce n'est pas mon cours et je n'aurai pas le temps. C'est de la même manière que parce que Dieu est Trinité, il est capable d'une création au sein de laquelle il y a du hasard, c'est-à-dire d'une création qui est consistante en son ordre propre. Bien de la même manière, parce que Dieu est Trinité, il est capable de l'homme au point de se traduire en une humanité consistante, celle de Jésus. Jésus est vraiment homme. Et donc, par exemple, si je vous pose la question, pourquoi Jésus est-il mort ? Que me répondez-vous ? Ah, voilà, quelqu'un a répondu du premier coup la bonne réponse. Jésus était mortel. Alors, il est mort, il a donné sa vie, il est mort sur la croix, etc. Mais en faisant une théologie fiction et en supposant, par exemple, qu'il n'eût pas été arrêté à Gethsémani, jugé par le Sanhédrin et Ponce Pilate et crucifié par les Romains, Jésus serait mort. Une autre question, ça je crois qu'on en a déjà parlé. Si Jésus ne se lavait pas, sentait-il mauvais ?
Ah ouais.
La réponse est oui.
Ah ouais.
Oui. Là, je me rapproche parce que je n'entends pas.
Historicité, foi, oui. C'est un peu dire Jésus, la révélation que nous avons de Jésus, fils de Dieu, est dans une temporalité historique. Voilà, il y a un moment de l'histoire, il est mort parce que c'était un homme. Oui. Donc, en fait, j'aurais souhaité, si ça rentre dans votre cours, que vous nous éclairiez sur le dialogue entre histoire, historiographie et foi.
Ah.
Tout comme on a fait sur les sciences.
Ah. Mmh. Oui. J'ai peur que ça m'entraîne, que ça nous entraîne un peu loin. Oui. Il va peut-être y avoir des choses. Bon. On met ça de côté, on va voir si la suite
donne des éléments de réponse. Éventuellement, vous me relancez là-dessus plus tard. Et j'y reviendrai. On verra si la suite donne des réponses. Si elle n'en donne aucune, pas du tout, à ce moment-là, peut-être que je ferai quelque chose là-dessus. D'accord ? Mais on garde ça sous le coude, parce que c'est vraiment une question intéressante. Mais comme ça, je me dis qu'il y a peut-être dans la suite du parcours des choses qui répondent un peu ou qui ne sont pas complètement éloignées de ce problème. D'accord ? Voilà pour les deux prolongements. On peut passer à la suite ?
Oui.
Tout le monde est d'accord ? Je le répète, hein, c'est le moment de ne pas dire après pour rien, perdu. Les deux résumés, c'est ce qu'il faut avoir vraiment en commun. Oui ? Ça va ? Alors, le cours 2. Ben justement, on va commencer par des problèmes qui ne sont pas complètement sans rapport avec la question qui vient d'être posée sur le rapport à l'histoire. Alors, ça ne va pas être tout à fait le rapport à l'histoire. C'est pas que le rapport à l'histoire, c'est aussi le rapport aux sources, mais... Donc maintenant, on pose la question, comment la sait-on ? La révélation. Comment la sait-on ? Alors, on va regarder les questions des sources. Ensuite, on va faire un petit peu de théologie chrétienne des religions. C'est-à-dire qu'on va... confronter le christianisme avec le fait religieux. Et en fait, on va voir que le christianisme, ça appartient à l'ensemble des faits religieux. Le 3, c'est pas vraiment un 3, c'est un texte vraiment magnifique d'un théologien important, Jean-Daniel Loup, sur ce problème-là. Et puis, pour finir, on parlera du prophétisme. Et je répète la question, et comment la sait-on ? Quelles sont les sources ? Quel est le rapport du savoir biblique par rapport au savoir religieux général ? Et savoir la révélation, de quel type de prophétisme cela relève-t-il ? Ça va pour les questions ? Ça peut pas, ça peut pas faire. C'est mis en bouche, donc c'est un peu énigmatique pour le moment, mais... Ça ne vous paraît pas complètement abscond ou complètement codé ?
Non.
Bon. Alors, on va voir. Alors, les sources, on va commencer par un texte très important qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Qui a entendu parler de ça ? Ah, il y en a plein. Voilà. Donc, c'est peut-être le plus vieux texte que nous ayons. La datation n'est pas très facile. Il y a un assez large consensus pour dire que c'est un texte qui date du moins 18e siècle, donc c'est très très vieux. C'est un texte sumérien, qui est écrit en cunéiforme, qui a été traduit au 19e siècle, et qui aujourd'hui est accessible en librairie. Alors pas en entier, parce qu'il y a des trous dans les tablettes, mais quand même, on est une grosse partie de l'épopée. Et alors en fait, on sait aujourd'hui, non seulement les contacts littéraires entre le livre de la Genèse, le début du livre de la Genèse et l'épopée de Gilgamesh, les contacts littéraires sautent aux yeux, parce qu'il y a des proximités évidentes, mais en plus de ça, l'archéologie a démontré qu'il y avait eu contact entre le monde sumérien et le monde palestinien dès le moins 12e siècle. Puisqu'on a des couches de fouilles archéologiques en Israël et en Palestine qui datent du moins 12e siècle et dans lesquelles on trouve des tablettes sumériennes. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont visibles au musée du Caire. C'est assez émouvant. Certaines des tablettes ont été trouvées. Donc, ça veut dire qu'il y avait des foyers de population sumériens dans la Palestine du moins 12e siècle. Et donc des contacts culturels entre les juifs et les sumériens. Ok ? Il y a eu l'exil à Babylone, etc. Mais avant l'exil à Babylone, il y avait des contacts. Alors on va lire un long passage que je trouve très, très chouette. On va lire la version du déluge chez Gilgamesh. Quand parurent les premières lueurs de l'aube, le pays se rassembla autour de moi, le charpentier apporta sa hache, l'artisan en roseau apporta sa pierre, les ouvriers exécutèrent le travail, les familles tressèrent des cordages, le petit enfant transporta le bitume, le pauvre apporta toutes sortes de matériaux. Le cinquième jour, j'esquissais le profil du bateau. Alors, il y a des... Quand j'ai mis six, c'est parce qu'il y a une faute dans le texte que j'ai recopié. Et quand vous avez des parenthèses comme ça, c'est parce que les éditeurs complètent les lacunes des tablettes. Donc j'esquissais le profil du bateau. L'aire du pont était de 36 arts. Chacun des flancs s'élevait de 60 mètres. D'un côté à l'autre, chacun des bords mesurait 60 mètres. J'en fixais la forme extérieure et l'esquissais. Je superposais 6 entreponts. Je divisais ainsi son espace en 7. Je divisais en 9 son intérieur. Je lui enfonçais dans le flanc des chevilles marines. Je prévis des perches et mis en place le matériel nécessaire. Comme la mise à l'eau du bateau était trop difficile, on disposa des vègres de l'arrière à l'avant, jusqu'à ce que le bateau fût immergé aux deux tiers. Tout ce que j'avais, j'en chargeais le bateau. Tout ce que j'avais d'argent, je l'en chargeais. Tout ce que j'avais d'or, je l'en chargeais. Tout ce que j'avais comme être vivant, je l'en chargeais. Je fis monter. Il y a un côté très répétitif qui fait penser, qui fait qu'un certain nombre de spécialistes font l'hypothèse que c'était un texte joué dans des contextes de théâtre culturel. D'où le côté répétitif qui permet de scander le texte, voire même de le danser. Parce que vous savez que l'origine du théâtre est religieuse. Hein. Donc certains, on ne sait pas si c'était joué dans une forme de théâtre culturel, mais c'est possible. Parce que le texte est rythmé. Certains textes de la Bible aussi sont rythmés. Aussi. N'est-ce pas? Suivez mon regard. Donc ça veut dire qu'il y a possiblement eu un théâtre culturel juif, c'est pas impossible. Vous connaissez Marcel Jouss?
Oui.
Non?
Oui.
C'est un exégète français qui a démontré le caractère rythmé et réparti spatialement et anthropologiquement de certain nombre de paraboles de Jésus, qui sont réparties par exemple selon le haut, le bas, la gauche, la droite. Et donc le caractère... Et du coup, ces éléments-là comme relevant d'une tradition orale et donc d'une mémoire orale. On répartit les contenus sur la gauche, sur la droite, sur le haut, sur le bas, etc.
Ça donne le mouvement de l'évangile gestué.
Voilà, tout à fait. Je fis monter sur le bateau les parents et les familles, les animaux domestiques et sauvages, les artisans de tout métier, je les y fis monter. Quand parurent les premières lueurs de l'eau, voici qu'une sombre nuée monte à l'horizon. À l'intérieur, le dieu Hadad ne cesse de gronder. En avant-garde marchent les dieux Shulat et Anish. Ils marchent, chambellan divin, par monts et par veaux. Le dieu Eragal arrache les vannes. Le dieu Nisota arrive et fait déborder les barrages. Donc vous voyez que vous assistez au démarrage du déluge. Et l'imaginaire qui est derrière, c'est celui d'une agriculture par irrigation, avec des canaux d'irrigation et des vannes. Donc qu'est-ce que font les dieux ici? Ils inondent les champs, ils inondent la création, ils ouvrent les canaux d'irrigation, les vannes, et donc ils vont inonder le champ. Ça va? Donc, le dieu Niutari les fait déborder les barrages, les dieux Anunnaki brandissent les torches. Alors, ici, vous avez des noms propres. Ninurta, c'est le nom propre d'un dieu. Mais vous avez aussi des noms qui relèvent de catégories de dieux. Donc, Anunnaki, ce n'est pas un dieu, c'est une catégorie de dieux. Ninurta, c'est un dieu. Ça va? Plus loin, on va croiser une autre catégorie de dieux, je crois. Les dieux Anunnaki brandissent les torches de leur éclat divin. Ils embrasent la terre. Le lourd silence du dieu Hadad advient dans le ciel et change en ténèbres tout ce qui était clair. Les assises de la terre se brisent comme un vase. Un jour entier, l'ouragan se déchaîne, impétueux. Il se déchaîne et le déluge déferle. Sa violence survient sur les gens comme un cataclysme. Impossible à chacun de voir quelqu'un d'autre.
aperçu du ciel, les gens ne sont plus reconnaissables. Pendant 6 jours et 7 nuits, le vent persista, l'ouragan diluvien écrasa la terre. Quand arriva le 7e jour, l'ouragan diluvien sévissait, comme une lutte à mort qu'on se livre entre combattants. Alors la mer se calma et se tut, le mauvais vent diluvien cessa, j'observais la mer, le calme régnait, mais tous les mortels étaient devenus de l'argile. Comme un toit plat, le marais s'étendait. Je vris une lucarne, un chaud rayon me tomba sur la joue. Je m'agenouillais, je m'accroupis, je pleurais, le long de mes joues, les larmes coulaient. J'observais des 4 côtés les bords de la mer. À 14 fois 60 mètres émergeait une côte. C'est au mont Nissir que le bateau accosta. Le mont Nissir retint le bateau et ne le laissa plus bouger. 1 jour, 2 jours, le mont Nissir retint le bateau immobile. 3 jours, 4 jours, le mont Nissir retint le bateau immobile. 5 jours, 6 jours, le mont Nissir retint le bateau immobile. Quand arriva le 7e jour, je fis sortir une colombe.
Voilà. La voilà.
Et la laissait aller. La colombe s'en alla, s'élança, mais aucun percheur ne lui apparaissant. Elle fit demi-tour. Je fis sortir une hirondelle et la laissait aller. L'hirondelle s'en alla, s'élança, mais aucun percheur ne lui apparaissant. Elle fit demi-tour. Je fis sortir le corbeau et le laissait aller. Le corbeau s'en alla et, voyant les eaux s'écouler, il se mit à manger, voltigea, fianta, hein, dans tout le transit. Et ne fit pas demi-tour. Ayant tout fait sortir aux 4 vents, j'allais sacrifier. Noé fera la même chose. Hein. Quand Noé sort de l'arche, il offre un sacrifice. C'est un tout petit peu embêtant parce que, comme on nous dit qu'il n'a pris qu'une paire pour chaque espèce, s'il sacrifie, du coup, c'est l'extinction. Vous voyez que ce n'est pas une histoire. Hein. Ah, bon. Je suis perdu. Là. Ici, je disposais en vis-à-vis, ayant tout fait sortir aux 4 vents, j'allais sacrifier, je répandis une offrande au sommet de la montagne. Je disposais en vis-à-vis 7 et 7 récipients au creux desquels je versais accord, cèdre et myrte. Les dieux enferrèrent l'odeur. Les dieux enferrèrent la bonne odeur. Les dieux se pressèrent comme des mouches au-dessus du sacrificateur, cet appétissant, tout ça. À ce moment arriva la grande déesse. Là, ça va barder. Ah, je ne vous ai pas mis la suite. Alors, la grande déesse va très mal le prendre. Parce qu'elle n'était pas mise dans la combine.
Et voilà. J'avais une sorcière.
Alors, non, elle est gentille, justement. Elle n'était pas mise dans la combine du déluge. Donc, le déluge, c'est à l'initiative de certains dieux et de certaines catégories de dieux. Mais tout le monde n'était pas dans la boucle. Et notamment, il n'avait pas saisi l'adresse mail de la grande déesse. Et donc, n'était pas au courant. Donc, ça s'est fait à son insu. Et ça n'aurait pas été son option spontanée. Et donc, elle va se fâcher très fort.
C'est avec les autres dieux. Blanche-Neige, il y en a une qui n'est pas conviée. Et du coup, elle se fâche.
Ah, si vous le dites. Alors, évidemment que le livre de la Genèse reprend Gilgamesh. Et il y a d'autres textes sumériens, par exemple il y a un texte moins vieux que Gilgamesh qui s'appelle l'Enumailish, où comme par hasard on vous raconte une création faite par les dieux en 7 jours. Tiens. Donc évidemment que la Bible a pompé. Donc, la révélation, comment la sait-on? Eh bien on la sait aussi comme ça, c'est-à-dire par réemploi d'éléments qui proviennent de la culture du temps, de la culture avoisinante, y compris une culture avec laquelle parfois les rapports sont conflictuels. Les rapports entre Israël et Babylone sont très conflictuels. C'est un mélange, comme avec l'Égypte, c'est un mélange d'admiration et de détestation. Aussi parce que, pas au même moment, heureusement pour Israël d'ailleurs, mais en différé, chacune de ces deux cultures a été un poids très très lourd sur le plan militaire, économique, politique et diplomatique. Et donc une menace. Que fait la Bible? Elle ne fait pas que pomper. Elle, alors, de nouveau ce fameux mot que j'aime beaucoup, reconfigure. Je vous ai mis un tableau comparatif qui résume cette reconfiguration qui est considérable. Chez vous, vous retournerez au texte de Noé, et vous verrez que c'est très différent. Alors, il y a chez Gilgamesh, comme dans le livre de la Genèse, une affaire de plantes, et de plantes de jouvence. Donc, dans le livre de la Genèse, c'est l'arbre de la vie, dont les kérubim, que les kérubim vont tenir à distance d'Adam et d'Ève, hein, Adam et Ève, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, et les kérovim sont placés à l'entrée de l'Éden dont Adam et Ève sont expulsés pour que précisément ils ne tendent pas la main vers l'arbre de vie. En réalité, quand on lit le texte attentivement, la distinction de deux arbres n'est pas si certaine que cela. Peut-être on peut interpréter le texte, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais volontiers, qu'en réalité c'est un seul et même arbre appréhendé de deux manières différentes. Mais bon, je mets ça de côté. En tout cas, que ce soit dans Gilgamesh ou dans le livre de la Genèse, il est bien question d'une plante alors, qui donne la jouvence ou qui donne la vie. Alors, chez Gilgamesh, c'est une plante sous-marine, et donc elle ne se trouve pas au milieu d'un jardin, donc Gilgamesh va plonger pour choper cette plante. Et dans l'épopée de Gilgamesh, le déluge est antérieur à l'affaire de la plante de jouvence, alors que dans le livre de la Genèse, le déluge est postérieur à l'affaire de l'arbre de vie. Donc l'ordre, la séquence n'est pas la même. Dans Gilgamesh, vous avez déluge et ensuite tout un dossier sur une plante de jouvence dont les dieux ont le secret et que Gilgamesh va chercher à dérober. Et dans le livre, la séquence est inverse. Vous avez l'arbre de vie d'abord et le déluge ensuite. L'enjeu dans l'épopée de Gilgamesh, l'enjeu objectif est simple vis-à-vis de la plante de jouvence. L'enjeu objectif des dieux, c'est d'utiliser la plante de jouvence comme appât pour éloigner Gilgamesh. Gilgamesh est ressenti comme une menace par les dieux, comme un rival potentiel. Et en fait, l'épopée de Gilgamesh, c'est aussi le récit d'une séparation du monde des dieux et du monde des hommes. Et donc les dieux cherchent à éloigner ce possible rival, et donc ils lui disent pas va voir là-bas si j'y suis, ils lui disent va voir par là-bas, il y a une plante de jouvence. Et ça va marcher. Gilgamesh va partir en quête de la plante de jouvence. Alors derrière, il y a toute une réflexion sur la mort, sur le deuil, sur la précarité de la vie, etc. Mais l'enjeu objectif pour les dieux avec la plante de jouvence, c'est que Gilgamesh s'éloigne. Du côté de... Donc c'est un enjeu de stratégie. Ok ? C'est un enjeu défensif. C'est une stratégie défensive. Dans le livre de la Genèse, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un enjeu de connaissance, de vie, de confiance en Dieu. Il y a la problématique des appétits, de la concupiscence, de la liberté. Dans tout ce qui tourne autour de l'arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie. Alors, je vous donne un exemple. D'abord, en aucun cas, le point de départ n'est d'éloigner Adam et Ève. Le point de départ, c'est au contraire de les garder là, dans la familiarité. Et c'est précisément parce qu'ils ne seront pas à la hauteur de la relation proposée qu'il va y avoir une distance. Mais la distance n'est pas dans l'intention de Dieu. Ce qui est dans l'intention de Dieu, c'est la familiarité. Et puis, on vous dit, pour vous donner une idée de la complexité des enjeux, Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que c'est ce qui se passe ? Non. Ce n'est pas ce qui se passe. Adam et Ève ne meurent pas. Et ils sont ceux qui vont avoir la longévité la plus exceptionnelle de tout l'Ancien Testament. Je ne sais plus à quel âge meurt Adam. Je vais dire une bêtise, mais c'est considérable. Il meurt plusieurs fois centenaire. Mais quand je dis plusieurs fois, c'est beaucoup de fois centenaire. Hein. Je ne sais plus combien, mais c'est énorme. Donc, la connaissance, autre chose. Adam et Ève ont-ils appris quelque chose en désobéissant ?
Qu'ils aient brisé des lieux.
Ah, bien. Bien. Alors ça, c'est la nuance que j'allais dire. Ok, bien vu. Mais, ce que le serpent dit, vous serez comme des dieux, etc. Est-ce que cela advient ?
Non.
En fait, ils connaissaient déjà. Ont-ils appris le bien et le mal ? Oui, non. Ils savaient déjà ce qui était bien et mal, dans un certain sens. Ils avaient déjà, comme le dit Paul dans les Épîtres aux Romains, ils avaient un commandement. C'est tout est à toi, sauf une chose. Pas respecter ce commandement, c'est déjà une certaine forme de mal, si on veut. Et est-ce que le fait de désobéir leur a apporté un surplus d'information à ce niveau-là ?
Non.
Alors oui et non. Comme le dit André Wédin,
et relu par Michelena Tenachin, théologienne italienne que j'aime beaucoup, et qui prend André Ouénin, mais qui le prolonge. André Ouénin, c'est un très grand exégète belge, et Michelena Tenachin, ils sont vivants hein, tous les deux. Michelena Tenachin, c'est une théologienne italienne. Michelena Tenachin s'appuie beaucoup sur Ouénin, mais elle va un peu plus loin. Elle dit bah, Adam et Ève n'ont rien appris sur le plan intellectuel, mais ils ont appris sur le plan existentiel. Ils sont dans la même situation que l'enfant qui a dit ne touche pas la prise, ça fait très mal. Il le sait déjà. Le jour où il touchera la prise, il le saura autrement. Il le sait existentiellement. Mais sur le plan de la connaissance pure, il avait déjà l'info. Vous voyez que c'est très complexe hein, dans les deux de la Genèse. Il y a quelque chose sur l'appétit. Le démarrage de la chute, alors ça c'est un propos anachronique parce que c'est pas comme ça que parle le livre de la Genèse, mais c'est bien comme ça que parlera beaucoup plus tard le livre de la Sagesse, en parlant du livre de la Genèse. Le livre de la Sagesse, des siècles après, dira que là, il s'agit d'une chute. Mais dans le texte du livre de la Genèse, vous ne trouvez pas le mot chute. Peu importe. Quoi qu'il en soit, le démarrage de ce que plus tard on appellera la chute, il est complexe aussi. C'est quelle voix faut-il entendre ? La voix du serpent ou la voix de Dieu qui n'est pas là à ce moment-là ? Ou encore, qu'est-ce qu'être responsable de l'autre ? Seul Adam a entendu qu'il ne fallait pas manger de ce fruit-là. Alors apparemment, Ève est au courant puisqu'elle est capable de répéter ça au serpent. Mais Adam n'est pas là non plus quand le serpent se pointe. Puis il y a d'autres enjeux. Le fruit est appétissant. Il est désirable. Il y a toute une réflexion, pas toute une réflexion, mais tout est convoqué à l'immense problématique. C'est-à-dire, comment se positionner par rapport à ses propres désirs. Est-ce qu'il y a dans nos désirs des choses potentiellement destructrices ? Et destructrices de quoi ? Par exemple ici, destructrices de la confiance. Et donc les problématiques sont extrêmement riches et complexes. Tout le monde suit ? Et ça, vous ne l'avez pas du tout dans Gilgamesh. Pas du tout, du tout, du tout. Alors ça, c'est... Ben, j'ai mélangé les deux plans, là. Là, je vous ai fait... ici, je vous ai fait l'autre. Voilà, là, ici, dans les objectifs simples, je vous ai dit, c'est un objectif stratégique défensif. Et ici, c'est beaucoup plus complexe, et je vous ai glissé, j'ai anticipé, je vous ai glissé l'intention. Objectif stratégique défensif par éloignement, et ici, l'intention du vis-à-vis, l'arbre du milieu désigné par Dieu comme interdit, c'est la dimension éthique de la relation d'alliance. Je vous ai fait les... Excusez-moi, je suis allé trop vite. Je vous ai fait les deux derniers crans en un seul. Alors ça, je n'ai pas assez développé. Donc l'intention de Dieu, c'est certainement pas qu'Adam et Ève s'éloignent. Il s'y réjouit, Dieu à regret. C'est une disposition seconde, c'est une réponse à une situation problématique. Enfin, mais ce n'était pas son intention première. Et du coup, ça situe tout le récit dans la dimension éthique de la relation d'alliance, c'est-à-dire dans la question de la confiance. Le problème... C'est pas tant qu'Adam et Ève aient bouffé ce qu'il fallait pas manger. Le problème, c'est le choix qu'ils ont fait d'écouter une voix plutôt qu'une autre. Celle du serpent plutôt que celle de Dieu. Et donc, le problème, c'est qu'ils aient ainsi blessé une relation de confiance. Alors là, avec ce tableau récapitulatif, on voit bien ce qu'on appelle reconfiguration. Hein. Et on n'hésite pas, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans le livre de la Genèse, dans l'histoire de Noé, énormément de choses qu'on a dans Gilgamesh, mais c'est redisposé autrement dans la séquence, dans la chronologie, et c'est tellement reconfiguré que les enjeux ne sont pas les mêmes, et du coup l'enseignement n'est pas le même. L'enseignement, ce qu'il s'agit de dire ne relève pas de la même chose. Donc, dans Gilgamesh, vous avez une réflexion sur le domaine des dieux, le domaine des hommes et une possible rivalité. C'est une réflexion sur le pouvoir. Vous avez une réflexion sur la précarité. C'est une réflexion sur l'amitié. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez une réflexion sur la virilité aussi. Vous avez des problèmes intéressants et des problèmes qui relèvent de la sagesse. Mais vous n'avez pas du tout ça. Et donc ça. Et donc le texte, même s'il pompe et pas qu'un peu, il dit tout à fait autre chose. Alors la question, c'est à partir de quelles ressources s'opère cette configuration? Alors, d'autant plus que vous avez du côté du récit biblique, vous avez un certain nombre d'anomalies par rapport au contexte culturel, même si c'est un contexte, là maintenant je vais prendre l'Ancien Testament général, donc c'est un contexte culturel très large, de plusieurs siècles. Vous avez plusieurs anomalies, notamment le monothéisme strict d'Israël est une anomalie, il ne tient pas cela de son contexte. Le fait que le propos religieux sur une vie après la mort soit si tardif et si secondaire est aussi une anomalie. Dans les contextes religieux proches, tout au long de l'arc de production de l'Ancien Testament, cette dimension-là d'une vie après la mort est capitale. C'est capital pour les Égyptiens, par exemple. Mais on sait, hein, c'est pas pour rien qu'il y ait des pyramides en Égypte. Hein. Les pyramides, c'est l'éternité du pharaon. Hein. Il n'y a pas de pyramide en Israël. C'est un peu dur de dire ça, mais ça type les cultures. Voyez. Donc il y a un certain nombre d'anomalies culturelles, juives, qui sont pas. Qui s'inscrit dans une durée. Donc par exemple, quand j'ai parlé du monothéisme strict, c'est un point d'aboutissement, c'est pas un point de départ. La foi d'Israël au départ est polythéiste, simplement le Dieu d'Israël c'est le leur. Alors on commence par dire c'est le nôtre, à l'exclusion des autres dieux, puis ensuite on va dire c'est le plus fort, le nôtre est plus fort que les autres, et on finit par dire mais il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, du coup, il va y avoir un autre problème. Et du coup, si notre Dieu c'est le seul et l'unique, il n'est pas que notre Dieu. Il est le Dieu de tous. Et là, vous avancez vers l'universalisme des prophètes. Et puis, vous avez aussi une évolution avec l'autre chose que j'aime et l'autre anomalie. Je vous dis, une vie après la mort, c'est pas. Alors, on va y venir. Israël va finir par y venir, mais tardivement. Et pour d'autres raisons que celles qu'on projette aujourd'hui, on dit, ah oui, mais les gens croient en Dieu parce qu'ils ont peur de mourir. Alors, Israël croit en Dieu, mais pas du tout parce qu'il avait peur de mourir. Et effectivement, il va finir par postuler une vie après la mort, mais pour d'autres raisons que celles liées à l'angoisse. Alors, quelles sont les ressources de ces singularités-là, qui tellement typent la Bible par rapport à des textes que pourtant elle connaît et auxquels elle emprunte? Avec qui?
Avec Dieu.
Oui.
Ça, c'est la seule différence pour moi.
Je crois qu'on est obligé, en tout cas moi je m'y sens poussé, hein. Je crois qu'on est obligé de mobiliser quelque chose qui relève d'une expérience singulière. Hein. Alors si on est croyant, on peut dire une expérience de Dieu, ce que moi je dis, si on n'est pas croyant, on sera. Et beaucoup le font, hein. On va dire qu'il y a une expérience culturelle singulière. Au sens fort, c'est-à-dire qu'on a affaire à des anomalies, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas. Oui, il faut voir que la Bible emprunte beaucoup aux cultures de son temps, et le temps biblique est un temps très très long, de plusieurs siècles. Notamment, vous avez plus tard des emprunts aux sagesses égyptiennes, et même vous avez probablement, dans le livre de la sagesse que j'ai déjà cité, vous avez probablement des emprunts au monde grec, au monde de la philosophie, très probablement. C'est pas toujours facile à repérer, mais c'est très probable. Donc oui, la Bible n'hésite pas à emprunter, mais oui aussi, la Bible présente des éléments de singularité qui sont saisissants. vous avez une expérience culturelle. Alors, toute expérience culturelle a sa spécificité, son originalité, mais là, elle est vraiment très très forte, parce que, par exemple, ce polythéisme strict auquel Israël aboutit, il est unique en son genre, et la modalité selon laquelle Israël a été conduite à postuler une vie après la mort est aussi une modalité unique en son genre. Alors que vous avez un polythéisme égyptien, vous avez un polythéisme babylonien, vous avez une croyance en une vie après la mort égyptienne, une croyance en la vie après la mort babylonienne, qui sont très comparables. Vous avez un polythéisme grec, vous avez... Donc les sources, il y en a, elles sont très profondément retravaillées à partir d'une expérience assez singulière. Alors justement, ce thème de l'expérience nous envoie vers le religieux. Ici, on va lire un auteur récent, hein, Mircea Eliade. Et ici, je veux parler du religieux comme une expérience commune qu'il est difficile de définir. Mais je crois qu'on peut ramener cette expérience commune à un type, ou à une conviction, ou à une expérience fondamentale dont je pense qu'elle est déterminante pour toutes les autres expériences qui composent le phénomène religieux. Et ça, je ne suis pas le seul à le penser, mais je le détermine en disant cela. Et cette expérience fondamentale qui qualifie le fait religieux dans toutes ses expressions plurielles à travers la culture, c'est l'expérience que le monde parle. L'homme religieux est celui qui entend ce que le monde dit. Et ici, alors ça va réagir au fond de la salle, nous ne sommes pas tous égaux. Alors, est-ce que c'est exclusif? Pas forcément. Nous ne sommes pas tous artistes, ça ne veut pas dire que nous sommes exclus du monde des arts. Une chose est d'être artiste, par exemple d'être musicien et musicien virtuose. C'est pas parce que je ne suis pas musicien virtuose que je n'aime pas la musique et que je ne la comprends pas. Mais je ne suis pas musicien virtuose. Et donc, par exemple, j'aime Bach, je ne suis pas Glenn Gould. Il y a quelque chose de cela avec l'homme religieux, celui qui entend le monde parler. Tout le monde n'entend pas aussi bien ce que le monde dit que d'autres. Et donc, dans le fait religieux, enfin, dans le religieux comme phénomène humain, vous avez partout des interlocuteurs qualifiés pour interpréter ce que le monde dit. Ou, si vous n'avez pas des personnes qualifiées pour interpréter ce que le monde dit, vous avez des procédures qui qualifient une collectivité pour la rendre capable momentanément de comprendre ce que le monde dit. Par exemple, vous avez des procédures pour entrer en transe, et même pour entrer en transe de manière collective. Ça va? Oui, il y a des sourcils qui se froncent là.
J'ai pas vu le rapport. Alors, voilà.
Hein?
Il y a quelque chose que j'ai jamais vu, je ne vois pas le rapport de l'exemple avec l'interprétation de ce que vous dites.
Oui.
Et la procédure. L'exemple que vous donnez, je ne parle pas.
Par exemple, Baudelaire, quand il parle de forêt de symboles, Rimbaud, il dit que. Quand il entend des mots, il voit des couleurs. Bon. Ce n'est pas des expériences que nous sommes tous capables de faire. Ça n'a pas le même... On peut en saisir probablement quelque chose, probablement pas au niveau de Baudelaire, au niveau de Rimbaud. Qui prenait des substances, hein, aussi. Hein. Oui. Ben justement, vous pouvez avoir dans le phénomène religieux soit une individualité reconnu dans sa compétence à entendre le monde parler d'une manière ou d'une autre et de manière plus ou moins pérenne. Donc on va voir l'homme ou la femme de Dieu, l'interprète, par exemple le chaman, qui en général d'ailleurs vit en dehors de la communauté, parce que sa qualification le rend ambivalent. Il est à la fois celui qui est une ressource ou celle qui est une ressource, il est aussi marqué d'une certaine forme d'impureté, de menace en tout cas, et donc il vit marginalement. Et dans son comportement, il a souvent ou elle a souvent quelque chose de transgressif. Et parfois, vous avez une qualification qui est collective et qui peut recourir à des méthodes comme la transcollective, éventuellement même en recourant à des substances qui vont hausser le groupe à une expérience sensible, amplifiée, modifiée. Il y a des techniques de la transe. Hein. Alors, le monde parle. Donc, l'homme religieux est celui qui se sait au moins en droit et au moins à un certain moment destinataire d'un message, d'un langage qui ne vient pas des hommes et qui lui est adressé, voire l'homme religieux, celui qui se sait au moins parfois capable d'interagir et de dire quelque chose à ce qui parle et qui n'est pas l'homme. Ça va ? Alors, c'est aussi l'expérience biblique. Est-ce que je vous ai mis le texte ? Non. Alors, je vais vous le lire. Si je vais au psaume 19, qui est absolument sublime, c'est exactement ce qu'on vous décrit. Donc, l'homme de Dieu, l'écrivain inspiré, vous dit ceci. Écoutez bien. Les cieux racontent la gloire de Dieu. On l'a pas lu encore ensemble, ça. Hein? Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit. Et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Qui parle là? Qui parle?
Du maître de chant.
Pardon? Le maître de chant.
Le maître de chant.
Très bien. Bonne réponse. L'homme de Dieu.
Écrit, hein.
Et que raconte-t-il?
De David.
Pardon?
David, en
fait. Voilà. Et que raconte-t-il? Que d'autres que lui parlent. Et qui sont-ils, ces autres que lui qui parlent? Alors, la nature dans le texte,
les cieux,
le firmament, le jour,
le soleil,
la nuit. Je continue. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Donc vous avez ici un homme de Dieu qui déchiffre une création qui parle, et qui parle de Dieu. Ça, c'est l'expérience religieuse fondamentale. Ça va ?
Oui.
La suite au prochain numéro ?
Oui. Ouais. 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 Ouais.